Pascal Picard. Que Québec se lève. La radio qui fait parler.
Bonjour à tous, bienvenue à Que Québec se lève. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin avec ma collègue Pascal Picard et Félix-Antoine Audet derrière la grande console F2A. Bonjour à vous deux.
Hello.
Il est présentement 8h14 très précisément. Et c'est pas un hasard si je voulais qu'on commence le segment exactement à cette heure-là. C'est assez rare qu'on ait tête comme ça dans le temps même, je dirais. Parce que il y a 20 ans exactement aujourd'hui, on est le 11 septembre 2021, donc ça fait 20 ans les attentats du 11 septembre sur les deux tours.
Près aussi.
Ben c'est à 8h14 très exactement que le Boeing 767 qui transportait 81 passagers, 11 membres d'équipage était détourné après être parti de l'aéroport Logan de Boston à destination de Los Angeles exactement 15 minutes plus tôt. Donc, il est parti à 7h59. À 8h14, il était détourné par un groupe de djihadistes du groupe terroriste Al-Qaïda. Et le Boeing 767, donc du vol AA-11, c'est American Airlines, s'est écrasé sur la façade nord de la tour nord du World Trade Center dans les minutes donc qui ont suivi, précisément à 8h46. L'avion a crashé entre le 93e et le 99e étage. Et dans les minutes qui ont suivi, un deuxième avion s'est écrasé sur la tour sud, puis un autre sur le Pentagone à Washington, et un quatrième avion qui s'est écrasé dans un champ en Pennsylvanie, tuant tous les passagers à son bord. À ce moment-là, il est 10h30. Et ces 2h15-là, à peu près, là, évidemment, ont changé la face du monde. Les attentats du 11 septembre 2001 sont les attentats les plus meurtriers jamais perpétrés. Encore aujourd'hui, le bilan officiel est de 2977 morts, 6291 blessés. L'attaque des tours jumelles a provoqué à elle seule le décès de 2753 personnes, dont 344 pompiers, 60 policiers et seulement 1647 victimes ont formellement été identifiées entre 2001 et 2021. Donc en 2h16, si on veut être précis, il y a 20 ans, l'ordre mondial a été secoué. Nos vies, même ici au Québec, au Canada, mais surtout la vie de plus de 300 millions d'Américains, ont changé à tout jamais. C'est un devoir qu'on a naturellement de se souvenir de ces événements-là. Aussi de faire l'état de la situation 20 ans après. Comment ça a changé nos vies? Et même peut-être d'essayer de regarder vers l'avant. Qu'est-ce qui nous attend dans les prochaines années? On va tenter de faire cet exercice-là avec Éric Arsenault, prof d'actualité internationale au cégep de Jonquière. Bonjour, prof Arsenault.
Bonjour, Raphaël.
Merci d'abord de prendre le temps de revenir sur ces événements-là avec nous ce matin. D'abord, j'imagine que vous vous souvenez, un peu comme tout le monde, vous devez vous souvenir assez précisément d'où vous étiez, ce que vous faisiez quand la nouvelle est tombée au matin du 11 septembre 2001.
J'ai encore un souvenir très précis de ça. J'étais en onde. À l'époque, j'étais journaliste pour une station de radio au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et on était en onde à ce moment-là, lorsque tout d'un coup, sur les écrans de télé, parce que dans une salle de nouvelles de radio, pour ceux qui connaissent pas, il y a toujours des écrans de télé où on regarde des chaînes d'information continue. Et quand on a vu les images arriver de New York à ce moment-là, ma première réaction, ça a été de dire, mais voyons, il y a un contrôleur aérien qui a pas fait son travail. Comment se fait-il qu'il envoie des avions se promener à cette altitude-là au-dessus de New York? Puis finalement, réaliser, après le deuxième avion, que Non, c'est pas une erreur, là. Il se passe vraiment quelque chose. Et ça a été le début d'une journée frénétique pour essayer de comprendre ce qui se passait là-bas.
Ça a été le cas d'ailleurs aussi pour les médias américains. En préparation de l'entrevue, j'essayais de trouver des archives. Puis on nous dit les premières informations. Tu sais, c'est presque farfelu, dans le sens où on voit que les journalistes ne comprennent pas. Un avion aurait foncé dans une tour du World Trade Center selon des informations qui n'ont pas été vérifiées. On est en 2001, ça fait que on s'envoyait pas de texto à l'époque. Comment on fait alors pour valider ces infos-là? J'imagine qu'on se branche sur les médias américains directement.
Ben voilà, inévitablement, et à partir de notre poste d'observation, mais surtout à partir de nos expériences personnelles, on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je me souviendrai toujours, c'était à CNN, il y a un commentateur ou une commentatrice, je me souviens plus, mais qui visiblement dépassé par les événements, avait dit à un moment donné, ben là, on va se taire, puis on va laisser les images parler. Et il y a eu un très long moment de silence. Pourquoi on n'avait plus rien à dire? C'était, ça dépassait tellement l'entendement, ce qu'on avait sous les yeux, ça défiait toute logique. On essaie des fois, quand on voit quelque chose, de rationaliser, de dire, bon, il vient de se poser, puis ça s'explique de telle façon. Mais là, c'est absolument inexplicable, et moi, je me souviendrai toujours de ça. Alors, let the picture tell the story. Laissons l'image nous raconter l'histoire, parce qu'il n'y a pas de mots capables de raconter ça.
Plusieurs experts de tous les milieux, d'ailleurs, autant des gens qui étudient la politique, l'histoire, la diplomatie, l'économie, la science, prétendent que le 11 septembre 2001, c'est comme vraiment la date, donc tu sais, finalement, qui a été déterminée, mais ça a tellement changé de choses que c'est comme la date qui symbolise vraiment le changement d'une époque dans l'histoire. Il y a des dates comme celle-là, la Révolution française, la prise de la Bastille, les guerres mondiales. Partagez-vous cet avis-là que le 11 septembre 2001 est vraiment un changement d'ère historique?
Ah oui, absolument, Paul Raphaël. Moi, je pense que c'est un point de bascule dans l'histoire. Parce que, reportons-nous un petit peu dans le contexte. On est en 2001, c'est, à mon sens, la fin d'une certaine forme d'innocence et d'insouciance pour les États-Unis, mais également pour le monde en entier. Parce que, il y a quelques années à peine, la guerre froide s'était terminée, il y avait eu la chute du mur de Berlin, la menace nucléaire qui, pendant des décennies, avait empoisonné l'existence de l'humanité, était comme, sans être disparue, mais était comme mise en sourdine, c'était comme une nouvelle ère de paix, de liberté, de prospérité. On parlait beaucoup à cette époque-là de mondialisation, de globalisation, la démocratisation se faisait, on avait vu dans l'espace communiste, le web arrivait dans le décor, Internet qui révolutionnait nos vies, et j'ai comme l'impression que cette belle utopie-là est comme partie en fumée avec les tours du World Trade Center, parce que notre réalité a changé du tout au tout, puis dans vos vies, puis pas juste dans celle des Américains, mais on dirait que la menace terroriste est devenue à partir de ce moment-là omniprésente. On s'est rendu compte là, que chez nous, on n'était plus en sécurité. Alors, on pouvait plus dormir en paix. Il y a comme une espèce, et c'est le but d'ailleurs du terrorisme, c'est d'instiller la peur, la terreur dans les populations. Et si vous avez fait l'expérience de prendre l'avion dans les mois qui ont suivi, ben, je veux dire, notre expérience de voyage a été changée du tout au tout. Là, il y avait des contrôles, il y a une obsession sécuritaire un peu partout. Et on s'est rendu compte que la menace, elle pouvait venir effectivement de partout, que le champ de bataille dans le fond, de cette nouvelle guerre contre le terrorisme, ben c'était à peu près partout. Rappelons-nous également que dans la foulée des attentats du 11 septembre, il y a toutes sortes de législations antiterroristes qui ont été mises en branle. Et certaines de ces législations ont, dans un certain sens, érodé ou encadré nos libertés individuelles. Alors aujourd'hui, on se formalise même plus qu'il y a des caméras de surveillance partout, puis qu'il y a des contrôles permanents dans nos vies, malgré les abus et les risques au niveau de la vie privée. Alors on a l'impression qu'on se retrouve aujourd'hui davantage qu'on l'était dans une époque à la 1984 et Big Brother. Et je pense que le 11 septembre est vraiment un moment charnière pour ça. Puis, si je peux me permettre d'ajouter ça, Paul Raphaël, il y a également le 11 septembre, c'est une espèce de fracture civilisationnelle également qui arrive. Parce que, rappelez-vous du discours de George W. Bush après les attentats, quand il disait « on va s'en prendre à Al-Qaïda ». Alors, si vous n'êtes pas avec nous autres, c'est que vous êtes contre nous autres. Et dans un certain sens, c'est comme si là, le monde s'était partagé entre l'Occident d'un côté, puis d'un autre côté, le monde arabo-musulman. Alors, on a vu apparaître la montée de l'islamophobie en Occident, mais également du sentiment anti-américain dans le monde arabo-musulman, notamment quand on a commencé à s'en aller en Afghanistan, puis en Irak, puis, et ça a entraîné aussi une espèce de montée des extrémismes. Alors, extrémisme religieux, avec notamment l'islamisme, la multiplication d'organisations terroristes, mais également dans nos sociétés à l'Ouest, extrémisme également avec la menace identitaire, alors la peur de l'autre, peur de l'immigration, et le discours d'extrême droite a, j'allais dire, a utilisé les attentats du 11 septembre comme carburant, le populisme également. Alors oui, moi je suis d'avis qu'effectivement, les attentats du 11 septembre, c'est un marqueur important de l'histoire du monde.
Puis c'est devenu, parce qu'il y a toujours, peut-être pas toujours, mais j'ai l'impression que chaque grande ère historique a vu un ennemi public à l'Occident, ça a été un bout de temps les nazis, ça a été un bout de temps le communisme au sens large, et le 11 septembre 2001, vous l'avez dit, c'est devenu le terrorisme.
Absolument. Pour les États-Unis et pour le reste du monde, la menace, il y en a toujours eu une menace, là. Puis dans un certain sens, tu sais, on se distingue en se comparant à l'autre ou en s'opposant à un autre. Mais la menace a effectivement changé de forme. Mais je pense que ce qui est paradoxal avec le 11 septembre, c'est que ce changement de menace a beaucoup, beaucoup déstabilisé. Parce que la guerre au terrorisme que l'on connaît depuis une vingtaine d'années, ça a complètement changé la donne. Parce qu'avant, tu parlais des nazis, Paul Raphaël, ou tu parlais de la guerre froide puis du communisme. Sauf qu'à l'époque, l'ennemi, on le voyait bien. Pendant la guerre froide, l'ennemi, c'est l'URSS. On peut facilement l'identifier. Ouais. On est capable d'évaluer sa force, d'évaluer sa puissance, ses capacités. Et il faut le comprendre, à l'époque où on se faisait la guerre, il y avait, dans un certain sens, un respect des mêmes règles. Même à l'époque de la guerre froide, je veux dire, chacune des deux puissances connaissait ses limites. Oui, on s'espionnait, puis oui, il y avait des activités de guérilla et tout ça, mais il y avait quand même des règles qui, j'allais dire, encadraient le jeu. Avec le terrorisme, là, ça change complètement. Parce que là, l'ennemi, tout d'un coup, devient invisible. Même, pire encore, l'ennemi se cache au sein même de nos sociétés. C'est pas un hasard, si on se souvient, que les 19 terroristes, ceux qui étaient là, les commandos djihadistes dans les avions, vivaient aux États-Unis en toute légalité depuis des années. Certains avaient suivi des cours de pilotage. Ouais. Et là, c'est un choc brutal, parce qu'on se rend compte que l'ennemi est non seulement invisible, mais en plus, il vient pas seulement de l'étranger, là. Il vient de chez nous. Et en plus, il joue pas selon les mêmes règles. Je veux dire, la guerre traditionnelle, il y a des lois qui encadrent ça, puis il y a des conventions. Mais là, il n'y a plus de règles. Là. Les attentats, ça vise les civils, les populations, à l'occasion des objectifs militaires et institutionnels. Mais là, on ne fait plus de prisonniers, il n'y a plus de pitié, et ça conduit à toutes sortes de dérapages. Alors, je pense que oui, ça change fondamentalement la donne.
Puis d'ailleurs, pour ajouter l'insulte à l'injure, puis pour illustrer encore plus ce que vous venez de dire, si je ne me trompe pas, le cerveau des attentats du 11 septembre 2001, alors que oui, Osama Ben Laden était comme le dirigeant d'Al-Qaïda à l'époque, mais le cerveau, c'est un ingénieur, un homme qui a étudié aux États-Unis et qui planifiait le coup depuis plusieurs années. On dit que depuis 96 déjà, c'est en 96 que le gars en question, Khaled Sheikh Mohammed, donc qui est un ingénieur pakistanais, avait présenté son espèce de plan machiavélique à Osama Ben Laden. C'est un gars qui avait donc fait ses études aux États-Unis. C'est quand même
absolument, tout à fait. Et c'est justement pour ça, d'ailleurs, que ces attentats ont pu frapper au cœur les États-Unis, frapper au cœur le monde occidental. Pourquoi? Parce que ceux qui les ont fomentés connaissaient justement la dynamique, la culture, le fonctionnement. Ils n'auraient pas pu faire autrement s'ils n'avaient pas connu la société américaine.
Qu'est-ce que ça a changé dans le rôle des... Maintenant, c'est plus facile de regarder derrière, on est 20 ans plus tard. Qu'est-ce que ça a changé dans le rôle des États-Unis comme première puissance mondiale, comme chien de garde de la démocratie, comme défenseur de la liberté? Est-ce que les Américains, encore aujourd'hui, ont ce statut-là? Et comment le 11 septembre a changé cette position-là?
Ça a changé beaucoup de choses. Et je pense que la première chose qui a changé, c'est que les Américains sont mis peut-être à douter d'eux-mêmes. En tout cas, pendant un certain temps, ils disaient « Wow, on pensait être invulnérable, puis on se rend compte qu'on ne l'est pas, invulnérable. » Et ils ont répliqué en envahissant l'Afghanistan, s'en allant en Irak, en menant une lutte mondiale contre le terrorisme. Mais tu poses la question avec le recul 20 ans plus tard. Moi, je pense que les États-Unis, comme chien de garde de la démocratie, comme référence en matière de liberté, je pense que la réputation des États-Unis en a pris pour son rhume un peu. Et l'image dans le monde des États-Unis, aujourd'hui, s'en trouve entachée. Ça reste évidemment une référence quand même, mais de plus en plus, je pense qu'on a vu apparaître, et je pense que les attentats du 11 septembre sont symptomatiques pour ça, mais on a vu apparaître les failles du système américain. Même si pendant très longtemps, pendant des décennies, les États-Unis avaient forcé l'admiration et même l'envie du monde. On se rend compte aujourd'hui, non, les États-Unis sont plus pareils. On regarde actuellement le dysfonctionnement des institutions politiques américaines, les rivalités entre démocrates et républicains au Congrès, la paralysie des institutions. Tu sais, ça, c'était pas aussi grave il y a 20, 30, 40, 50 ans, même s'il y a toujours eu une joute politique. On regarde la politisation de la justice aux États-Unis, notamment avec les nominations de Donald Trump à la Cour suprême. On regarde le dénigrement du système électoral. Moi, je pensais jamais voir ça de mon vivant. Les allégations de fraude lors de l'élection, le psychodrame de l'élection de 2020, où on remet en question l'un des fondements, l'une des bases du système américain, c'est-à-dire le système électoral. au-delà de ça, toute la polarisation de la société américaine avec la montée des extrémistes, le racisme, puis la montée des extrémistes, là, que ce soit du côté de l'extrême droite, du côté de l'extrême gauche également, la confiance ébranlée des Américains envers les médias, les dérives de certains médias, d'ailleurs, dans la foulée de tout ça, et l'espèce de repli sur soi des États-Unis, je pense qu'il y a ça aussi. Si les Américains, après le 11 septembre, se sont lancés dans une guerre sans égard partout à travers le monde contre le terrorisme, on se rend compte que de plus en plus, et avec Donald Trump, c'était évident, là, America First, ils se replient sur eux-mêmes. Et ça, je pense que les États-Unis, en se détournant du monde, c'est pas étonnant peut-être que le monde se détourne aussi un petit peu d'eux. Et le modèle américain est incidemment beaucoup moins séduisant aujourd'hui qu'il l'était peut-être il y a 20 ans.
Il y a quelques semaines, les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan. Disons que le timing fait en sorte que c'est d'autant plus fâchant pour certains, notamment les gens qui ont des membres de leur famille qui ont pu être déployés, des gens qui sont dans les forces armées et autres, là, pour qui c'est particulièrement vexant. Mais qu'est-ce que ça vous dit, vous, sur le fait que il y a des gens aussi qui vont dire tout ça a servi à rien? Qu'est-ce que ça vous dit, pour faire sonner, de voir les talibans revenir au pouvoir en Afghanistan 20 ans plus tard?
C'est un curieux, et c'est un grand paradoxe, mais c'est un curieux retour des choses également. Parce que, rappelle-toi, Paul Raphaël, le printemps dernier, lorsque Joe Biden avait annoncé que les troupes américaines se retiraient totalement d'Afghanistan, il avait fixé précisément la date butoir au 11 septembre. Puis finalement, on connaît la suite des choses. Ils ont même pas attendu le 11 septembre pour déguerpir les Américains, puis on voit dans quelles conditions ça s'est passé. Et sans dire que c'est pratiquement le retour à la case départ, sincèrement, on regarde ça puis on se dit, on n'est pas tellement loin que ça. Et les Américains, dans un certain... En fait, il y a toute une série de raisons qui pourraient expliquer ça, mais je pense que les États-Unis ont fait deux grandes erreurs stratégiques du côté de l'Afghanistan. La première, c'est de ne pas avoir accepté dès le début, dans les mois qui ont suivi leur intervention en Afghanistan, la reddition des talibans. Il y avait eu des propositions qui avaient été faites par des leaders talibans, mais à cette époque-là, George Bush, et je pense que les Américains aussi étaient tellement furieux, blessés, tristes par ce qui s'était passé, qu'il n'y avait pas de négociation possible. Il fallait anéantir, détruire l'ennemi. L'autre grande erreur des Américains et de l'administration Bush, c'est après quelques mois, un an ou deux, d'avoir détourné l'attention de l'Afghanistan, où le travail était loin d'être terminé, pour décider d'aller régler son compte à Saddam Hussein en Irak. C'était une obsession de George W. Bush et de ceux qui l'entouraient, là, les faucons, les va-t-en-guerre qui l'entouraient, alors qu'en Afghanistan, le travail était encore à faire. Oussama Ben Laden n'avait toujours pas été capturé, il était toujours en cavale. Ce n'est qu'en 2011, finalement, qu'on va le retrouver et qu'on va l'éliminer au Pakistan. Bref, alors, cette série d'erreurs-là a pavé la voie, tranquillement pas vite, au retour au pouvoir des talibans, puis on voit ce que ça a donné avec une spectaculaire rapidité au cours des dernières semaines.
Aujourd'hui, le 11 septembre 2021, professeur Senault, est-ce que c'est encore le terrorisme qui est l'ennemi public ou la menace mondiale, c'est encore le terrorisme? C'est la montée des extrémismes? C'est la Russie, la Chine? Est-ce qu'il y a encore un seul ennemi public le 11 septembre 2021?
Ben justement, je pense que tu viens de toucher un excellent point. Parce que dans la foulée des attentats du 11 septembre, on a dit effectivement l'enjeu, le défi maintenant, c'est justement la menace terroriste. Mais cette menace terroriste-là, elle existe toujours, elle est bien présente, mais elle s'est un peu comme un clone, là, elle s'est clonée, là, elle prend aujourd'hui toutes sortes de formes. Et si effectivement la menace terroriste reste encore bien présente aujourd'hui, il y a toute une série d'autres enjeux à l'échelle mondiale et internationale. Alors, tu parlais de la Chine tout à l'heure, qui devient la grande puissance rivale des États-Unis. On se retrouve à nouveau, comme ça avait été le cas à l'époque de la guerre froide, dans une espèce de rivalité bipolaire entre grandes puissances qui s'affrontent. Mais il y a d'autres menaces également qui apparaissent. Alors, sur le plan géopolitique, il y a la Russie, mais il y a également d'autres nations qui essaient comme ça là, de prendre leur place sur la scène internationale. Mais il y a des défis aussi plus grands. Bon, la pandémie en est un fort bel exemple. La menace, elle est également une menace sanitaire aussi, dans un certain sens, qui mobilise la communauté internationale. Mais au-delà de ça, il y a toutes les questions liées au racisme, aux inégalités, au développement. Il y a les extrémistes, t'en parlais tantôt, alors que ce soit l'extrémisme religieux, mais il y en a d'autres également qui arrivent dans le décor. Le monde est en train de changer et ces menaces-là prennent aujourd'hui plusieurs visages. Et c'est loin d'être terminé, là, parce que probablement, puis on n'a pas de boule de cristal, c'est difficile à imaginer aujourd'hui, mais il y a d'autres menaces qu'on peut pas aujourd'hui imaginer qui risque de débarquer puis de nous confronter au cours des prochaines années, des prochaines décennies.
Merci pour Arsenault pour votre temps ce matin, c'est fort apprécié.
Toujours un plaisir. Bonne fin de journée.
Éric Arsenault, notre expert en actualité internationale, prof au cégep de Jonquière. Évidemment, donc, on discutait du 20e anniversaire, triste anniversaire aujourd'hui, mais on est là dans les moments très exacts où le premier avion était détourné et filait vers la tour nord du World Trade Center il y a donc 20 ans. Bien sûr que c'est troublant.
C'est troublant, je veux dire, ce qui est le portrait sur l'avenir aussi, là.
Ben, tu sais, puis on n'a pas parlé.
C'est la vraie vie, là. Je veux dire, ça sert à rien d'avoir des œillères, là, mais de se le faire dire comme ça, dans des phrases complètes, par quelqu'un qui connaît ça.
Écoute, on n'a même pas encore commencé à parler d'Internet comme véhicule d'influence sur les démocraties, ce qui est aussi un des enjeux majeurs en ce moment, mais c'est ça. Donc, la paix mondiale est fragile, pour le moins fragile. Je dois vous prévenir parce que là, avant d'aller à la pause, on va écouter un petit montage d'archives que je vous ai préparé pour commémorer un peu donc ce qui s'est passé il y a 20 ans. Ce sont des archives que j'ai trouvées sur Internet de gens qui ont filmé avec leurs appareils sur la rue à New York, d'annonceurs de journaux, de téléjournaux, c'est-à-dire là en France, à CNN, en temps réel, un bout du discours de George W. Bush. Je vous le dis, c'est sûr que c'est un peu pesant parce que ce sont des événements absolument tragiques. Je vous l'ai dit tantôt, là, ça reste que 20 ans plus tard, c'est les attentats les plus meurtriers de l'histoire. Puisque ça s'est passé là, tu sais, dans un laps de temps de 2 heures. Là. Mais en même temps, je pense qu'on a le devoir de se souvenir de ce qui s'est passé. Même si d'entendre l'explosion de la deuxième tour, c'est pas agréable. On a quand même le devoir de se souvenir de ce qui s'est passé, évidemment. Ça fait partie de notre devoir de mémoire. Donc, on se quitte pour la pause en écoutant donc ces archives du 11 septembre 2001 au matin.
Bonjour à tous. Ce flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions. Ce serait un attentat selon les médias américains.
This just in, you were looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center. Plane has crashed into one of the towers.
Unconfirmed report that a plane has crashed into one of the towers there. We are efforting more information on this subject as it becomes available to you.
I just witnessed a plane that appeared to be cruising slightly lower than normal altitude over New York City, and it appears to have crashed into one of the World Trade Center towers.
What is this?
They just think there's going to be another explosion. Frank?
Good evening. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. None of us will ever forget this day. Yet we go forward to defend freedom and all that is good and just in our world. Thank you. Good night. And God bless America.